Le baryton Mitropovski m'était infiniment plus sympathique. Quand il venait au cabaret, il traversait la salle du pas d'un homme qui porterait un lourd fardeau. Il poussait une chaise avec son pied et s'asseyait, les coudes sur la table, sa grosse tête ébouriffée appuyée sur les mains. Après avoir avalé deux ou trois verres, il grillonnait avec fracas. Tout le monde se tournait vers lui, et il regardait les assistants d'un air provoquant, une toison de cheveux en broussailles retombant en désordre sur son visage boursouflé et bistré. « Que regardez-vous? Que voyez-vous ? » demandait-il soudain. Et ses paroles résonnaient comme des détonations. Parfois, on lui répondait « On voit le diable !» Certains jours, il buvait sans mot dire et repartait sans avoir ouvert la bouche, entraînant lourdement les pieds. Je l'entendis maintes fois sermonner les gens à la manière d'un prophète. « Je suis l'incorruptible serviteur de mon Dieu, et je vous condamne comme Isaïe. Malheur à la ville d'Ariel, car les fripons, les fornicateurs y ont élu domicile dans la fange de leurs désirs immondes. Malheur aux routes maritimes ou terrestres, car elles transportent en tout lieu de vils humains, c'est-à-dire vous, les ivrognes, les gloutons, le rebut de ce monde. Vous ne comptez pas, maudit, et la terre elle-même vous rejettera de son sein. » Sa voix faisait trembler les vitres, ce qui amusait beaucoup le public qui approuvait. « Il s'entend à en dégoiser, ce diable barbu !» Avec lui, il était facile de lier connaissance. Il suffisait de lui offrir une consommation. Il demandait un flacon d'eau-de-vie et une portion de foie de bœuf au paprika, son mets favori, un mets qui brûlait la bouche et les entrailles. Quand je lui demandai de me dire quel livre il fallait lire, il me répondit coup sur coup par une autre question. « Pourquoi lis-tu ? » Mais, radouci par mon embarras, il ajouta d'un ton moins forcené « As-tu lu l'Ecclésiaste ?»« Oui. » »« Eh bien, relis-le, et rien d'autre. Il contient toute la sagesse du monde. » Seuls les ânes battés ne le comprennent pas, c'est-à-dire que presque personne ne le comprend. Qu'est-ce que tu es ? Chantre ? Non. Pourquoi pas ? Il faut chanter, c'est l'occupation la plus stupide. Son attitude envers Kleshov était tout à fait bizarre. Il écoutait chanter le cellier avec un plaisir évident, parfois même avec un sourire amical. Mais il ne cherchait pas à faire sa connaissance, et parlait de lui avec une brutalité méprisante. « C'est un animal. Il sait souffler, il comprend ce qu'il chante. Et pourtant c'est un âne. Le fond de sa nature est d'un âne. » J'aurais voulu causer avec lui quand il était à jeun. Mais à jeun, il ne faisait que mugir en regardant le monde avec des yeux vagues et angoissés. On racontait que cet homme, perpétuellement ivre, avait fait ses études à l'académie de Kazan et qu'il aurait pu devenir archevêque. Mes brèves relations avec Mitropolski se terminèrent d'une façon bizarre. Un matin de printemps, je le rencontrai dans la campagne, près du camp. Il marchait comme un chameau, en hochant la tête, solitaire, boursouflé. « Tu te promènes ? » fit-il d'une voix rauque. « Allons de compagnie, je me promène aussi. » « Je suis malade, mon copain. » Nous faisons quelques pas en silence, et tout à coup, dans le fond d'une dépression où l'on avait jadis installé une tente, nous découvrons un homme, assis et penché sur le côté, l'épaule appuyée au talus. Son pardessus était remonté d'un côté plus haut que les oreilles, comme s'il avait voulu l'enlever sans y réussir. « Un ivrogne !» dit le chantre en s'arrêtant. Mais auprès de l'homme dont le pardessus cachait la figure, j'aperçus dans l'herbe nouvelle un gros revolver, puis une casquette et une bouteille d'eau-de-vie à peine entamée. Nous restâmes quelque temps silencieux. Mitropolski, écartant largement les jambes, déclara « Il s'est suicidé !» J'avais compris aussitôt que l'homme n'était pas ivre, qu'il était mort. Mais la rencontre était si imprévue que je ne pouvais y croire. Je me le rappelle, Je ne sentis ni peur ni pitié en regardant ce grand crâne lisse et l'oreille bleue qui apparaissait sous le vêtement. Je ne pouvais pas croire qu'un homme pût se tuer par une si caressante journée de printemps. Du revers de la main, le chantre frotta vigoureusement ses joues hirsutes, comme s'il avait froid, et il dit de sa voix rauque « Un vieux, sa femme a pris la fuite, ou bien il a perdu de l'argent qui ne lui appartenait pas. » Il m'envoya en ville pour chercher la police, et il s'assit au bord du trou, les jambes ballantes, en se pelotonnant frileusement dans son pardessus élimé. Après avoir informé du suicide un agent de police rencontré sur la route, je revins à la hâte. Mais pendant ce temps-là, le chantre avait achevé l'eau-de-vie du mort, et il m'accueillit en brandissant la bouteille vide. « Voilà ce qu'il a perdu !» mugissait-il. Et lançant avec fureur le flacon sur le sol, il le brisa en mille miettes. L'agent de police qui me suivait jeta un coup d'œil dans le creux, enleva sa casquette et se signa d'un geste indécis. Puis il demanda au chantre « Qui es-tu ? » « Ça ne te regarde pas. » L'agent réfléchit un instant et reprit plus poliment. « Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a là un mort, et vous, vous êtes ivre. » « Depuis 20 ans, je suis ivre, » déclara fièrement le chantre en se frappant la poitrine. J'étais persuadé qu'on allait l'arrêter pour avoir bu l'eau-de-vie. Des gens accoururent de la ville. Le commissaire arriva en voiture, descendit dans la fosse, et, soulevant le pardessus du suicidé, il regarda son visage. « Qui est-ce qu'il a vu le premier ?»« Moi, » dit Mitropolski. Le commissaire de police lui jeta un coup d'œil et fit d'un ton menaçant « Ah, toi ?» Des curieux s'assemblèrent, une quinzaine de personnes. Excités, haletants, on regardait dans la cavité, on s'écrasait tout autour du mort. Quelqu'un s'exclama « C'est un fonctionnaire de notre rue, je le connais !» Chancelant, Mitropolski se tenait, la casquette à la main, devant le commissaire de police et discutait avec lui, en prononçant des mots rauques et indistincts. Puis le commissaire le poussa à la poitrine et le chantre vacilla et tomba à terre. Alors l'agent de police sortit tranquillement de sa poche un bout de ficelle. Il lia les mains que le chantre avait croisées derrière le dos en un geste coutumier et docile. Le commissaire, d'un ton irrité, cria aux assistants « Allez-vous-en, fripouille !» Un autre agent de police, un petit vieux aux yeux rouges et larmoyants, à la bouche béante de fatigue, accourut aussi et saisit le bout de la cordelette. Il conduisit lentement vers la ville, le chantre ligoté. Je m'en allais aussi, bouleversé. Peu après, j'appris que le prophète avait été expulsé du pays. Ce fut ensuite Kleshov qui disparut. Il fit un bon mariage et alla s'établir en province, où il ouvrit un atelier de sellerie. J'avais parlé au patron des champs du sellier avec un tel enthousiasme qu'il m'avait dit un jour « Il faudra aller l'entendre une fois !» Et le voilà, assis en face de moi, à une petite table, les yeux écarquillés d'étonnement. En route, il n'avait cessé de me plaisanter, et il avait continué au cabaret, se moquant de moi, du public et des mauvaises odeurs. Lorsque le sellier se mit à chanter, mon patron eut un sourire ironique et se versa de la bière. Mais il s'arrêta, laissant le verre à moitié vide, et il dit « Oh, oh, diable !» Sa main tremblait. Il posa doucement la bouteille et écouta avec attention. « Oui, oui, en effet, » soupira-t-il lorsque Kleshov se tut. « Il sait chanter. Que le diable l'emporte. Il m'a donné chaud. » Le sellier se remit à chanter, la tête rejetée en arrière, les yeux au plafond. Sur la route d'un riche village, une jeune fille passe par les champs. « Il chante bien !» murmura le patron en hochant la tête et en souriant. et que l'échauffe module comme un rossignol. Et la belle lui répond « Je suis orpheline, je n'ai personne. »«
Que c'est beau !» chuchote le patron, et ses yeux rougis clignotent. « Que c'est beau, diable !»
Je le regarde et je suis content. Les paroles désolées de la chanson dominent le tapage du cabaret, deviennent toujours plus ardentes, plus belles, plus sentimentales.
On vit en ermite dans notre village. On ne m'invite pas aux veillées. Hélas, je suis pauvre et mal habillée. Je ne suis donc pas digne d'un beau gars. Un veuf m'a demandé pour servante, plutôt que pour femme. Je ne veux pas me soumettre à ce sort.
Sans vergogne, mon patron éclate en sanglots. La tête de côté, il renifle de son nez crochu et les larmes lui tombent sur les genoux. Après la troisième chanson, il me dit tout ému et sans force « Je ne peux plus rester ici, j'étouffe, ça sent mauvais. Allons, rentrons. » Mais dans la rue, il me proposa « Si nous allions à l'hôtel, Pechkov, nous mangerons un morceau, nous boirons. Je n'ai pas envie de rentrer. »
Sans marchander, il prit un traîneau. Pendant tout le trajet, il garda le silence. Mais au restaurant, quand il fut installé à une table dans un coin, il commença aussitôt à mi-voix, d'un ton angoissé et indigné, en jetant des coups d'œil dans la salle.
« Il m'a démoli, cet abruti! Il m'a donné des idées noires! Voyons, toi qui lis, toi qui réfléchis, explique-moi ce que sont ces diableries! On vit, on vit, on a vécu 40 ans, on a une femme, on a des enfants, mais personne avec qui parler. Quelquefois, on voudrait ouvrir son cœur. On aimerait à causer de tout, mais on ne sait avec qui. Quand je parle à ma femme, elle ne me comprend pas. Et puis, qu'est-elle? Elle a ses enfants, son ménage, ses occupations. Elle est étrangère à mon âme. La femme est une amie jusqu'au premier enfant. D'habitude. Mais elle n'est ni chair ni poisson. C'est de la viande inanimée. Que le diable nous emporte tous. Je m'ennuie, mon garçon. » Il avala convulsivement un verre de bière amère et glacée. Puis il se tut un moment, ramena en arrière ses longs cheveux et reprit. « En général, mon ami, les gens sont des canailles. Ainsi, tu parles avec les ouvriers de ceci, de cela. Je comprends bien, il y a beaucoup de choses injustes, révoltantes. C'est vrai, mon garçon. Ce sont tous des voleurs. Et tu penses que tes paroles ont de l'effet? Pas le moins du monde. Non. Piotr, Ossip, tous sont des fripons. Ils me rapportent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tes propos sur moi-même. Qu'en dis-tu? Ossip me rapporte tout. » Je gardai le silence stupéfait. Le patron buvait de la bière, verre après verre, sans se griser. Il parlait toujours plus vite, avec une animation croissante. Le proverbe dit « La parole est d'argent et le silence est d'or. » « Je m'ennuie, mon garçon, je m'ennuie. » C'est vrai ce qu'il a chanté. « On vit en ermite dans notre village. L'humanité est orpheline. » Après avoir jeté un regard autour de lui, il baissa la voix et continua. « Je m'étais trouvé une amie de cœur. J'avais fait la connaissance d'une femme, d'une veuve. Son mari, condamné à la Sibérie pour de la fausse monnaie, était en prison. La femme n'avait pas le sou. Une entremetteuse me l'a présenté. Je l'ai bien étudiée. Ah, qu'elle était exquise, et jeune, et jolie. Je l'ai vue une fois, deux fois, et je lui ai dit « Comment cela se fait-il ? Ton mari est un malfaiteur, toi, tu te conduis mal, et tu veux le suivre en Sibérie. » En effet, elle voulait l'accompagner dans son exil. Elle me répond « Qu'importe ce qu'il est, je l'aime. Pour moi, il est parfait. C'est peut-être pour moi qu'il est en prison. Et si je pêche avec toi, c'est pour lui, il a besoin d'argent. Il est délicat et habitué à bien vivre. Si j'étais seule, ajouta-t-elle. « Je vivrai honnêtement. Vous êtes un brave homme, et vous me plaisez beaucoup. Mais n'insistez pas sur ces tristes choses. » Je lui ai donné tout ce que j'avais dans ma bourse, 18 roubles et de la petite monnaie. « Excusez-moi, lui dis-je, je ne peux plus rester avec vous, je ne peux plus. » Et je suis partie. Voilà toute l'histoire. Il se tut. Subitement grisé, accablé, effondré, il murmura. « J'ai été 6 fois avec elle. Rien ne s'est passé de ce que tu pourrais croire. Je suis monté peut-être 6 fois encore jusqu'à son appartement, sans oser entrer. Je ne pouvais pas. Et maintenant, elle est partie. » Il posa les mains sur la table. Tout en remuant les doigts, il chuchota. « Pourvu que je ne la revoie jamais. Que Dieu m'en préserve. Sinon, j'enverrai tout au diable. Rentrons. Rentrons à la maison. » Nous nous mîmes en route. Il chancelait et grommelait. « Ouais, c'est comme ça, mon ami. » Ses confidences ne m'étonnaient pas. Depuis longtemps, je sentais qu'il lui était arrivé quelque chose d'inaccoutumé. Mais je demeurais très surpris de ses révélations sur la vie, et surtout des bavardages d'Ossip. Chapitre 22. Je vécus pendant 3 ans comme surveillant dans la ville morte, au milieu des bâtiments déserts. Sous mes yeux, en automne, les ouvriers démolissaient les informes boutiques de pierre et ils les reconstruisaient toutes pareilles au printemps. Le patron veillait avec soin à ce que mon salaire de 5 roubles par mois fût bien gagné. Quand on refaisait le plancher d'une boutique, je devais enlever la terre sur toute la surface et sur une profondeur d'1 mètre. Les vagabonds prenaient 1 rouble pour cette besogne. Moi, je ne recevais rien. Mais, pris par ce labeur, je n'avais pas le temps de surveiller les charpentiers qui dévissaient poignées et serrures et volaient toutes sortes de petites choses. Les ouvriers et les entrepreneurs s'efforçaient les uns et les autres de me tromper de toute manière et de dérober ce qu'ils pouvaient, avec un sans-gêne manifeste, comme s'ils obéissaient à une ennuyeuse nécessité. Ils ne se fâchaient pas quand je les prenais sur le fait. Ils étaient simplement étonnés et disaient « Tu t'en donnes du mal pour 5 roubles. Plus que bien d'autres pour 20, c'est même amusant à voir. » Je prouvais au patron qu'en gagnant 1 rouble par mon travail, il en perdait 10 d'une autre manière. Mais il me répliquait avec un clignement « C'est bon, fais l'innocent. » Il me soupçonnait d'être le complice des larcins, ce qui m'inspirait du dédain pour lui, mais ne me mortifiait nullement. Telle était la coutume. Tout le monde volait, et mon patron tout le premier. Lorsqu'il allait, la foire terminée, inspecter les boutiques qu'il était chargé de réparer et qu'il voyait des objets oubliés, un samovar, de la vaisselle, un tapis, des ciseaux, parfois une caisse ou une pièce de marchandise, il disait avec un sourire « Fais une liste des objets et porte-les à l'entrepôt. » Et de l'entrepôt, il emportait les choses chez lui, en me faisant modifier plusieurs fois l'inventaire. Je n'éprouvais aucun désir de posséder quoi que ce fût. Les livres eux-mêmes m'embarrassaient. Je n'avais rien, sauf un petit volume de Béranger et les poésies de Heine. J'aurais voulu acquérir Pouchkine, mais le seul bouquiniste de la ville, un méchant petit vieux, en voulait beaucoup trop d'argent. Les meubles, les tapis, les miroirs, rien de ce qui encombrait l'appartement du patron ne me plaisait. Les formes massives et lourdes, les odeurs de vernis et de couleurs, tout m'irritait. D'ailleurs, les pièces occupées par mes patrons me semblaient hideuses et me rappelaient des mâles bourrés de bibelots et superflus. Et j'étais dégoûtée de voir qu'on emportait de l'entrepôt des objets appartenant à autrui pour augmenter encore le nombre des meubles sans destination. Chez la reine Margot, on était à l'étroit aussi, mais au moins, c'était beau. En général, la vie me semblait décousue et stupide. Il y avait en elle trop d'évidentes bêtises. Ainsi, nous réparions des boutiques. Au printemps, la crue les inondait, disjoignant les planchers et faussant les portes. Quand l'eau se retirerait, les poutres se mettraient à pourrir. D'année en année, depuis 10 ans, l'eau submergeait la foire et endommageait bâtisses et chaussées. Ces inondations annuelles causaient d'immenses pertes aux gens, et cependant, on savait leur retour inévitable. Chaque printemps, le brise-glace coupait en deux des dizaines de petites embarcations. On poussait des exclamations et l'on construisait de nouveaux bateaux, que le brise-glace anéantissait à nouveau. Quel stupide piétinement sur place! J'en parle à Ossip, qui s'étonne et rit. « Ah, petit farfouilleur, à quoi t'accroches-tu? Et qu'est-ce que ça peut te faire, tout ça? Est-ce que ça te regarde, hein ?» Mais il ajoutait aussitôt d'un ton plus sérieux, sans pourtant que s'éteignît dans ses yeux bleus, jeunes et clairs, une petite flamme d'ironie. « Tu as vu juste. Tu n'en tires aucun avantage, mais cela pourra te servir plus tard, de bien raisonner. Tiens, il me revient en mémoire une histoire du même genre. Écoute ceci. Des gens disaient en se lamentant, « Nous avons peu de terre. » Et au printemps, la Volga attaque les rives, emporte la terre et la garde au fond de son lit. « La Volga sans sable !» crient d'autres mécontents. Les torrents d'été et les pluies d'été creusent des ravins. C'est encore de la terre qui se perd dans l'eau. Ossip parlait sans méchanceté et sans pitié non plus, comme s'il était un peu fier de sa supériorité de jugement. Quoique ses réflexions concordent avec les miennes, il m'est désagréable de les entendre. Autre exemple encore, les incendies. Aucun été ne se passait, je l'ai constaté, sans que le feu n'éclatât dans les forêts riveraines de la Volga. Chaque année, en juillet, le ciel se voilait d'une fumée jaune sale. Le soleil écarlate perdait ses rayons et ressemblait à un œil malade regardant la terre. Les forêts, ça n'a pas d'importance. Elles appartiennent aux nobles ou à l'État. Le paysan n'en possède pas. Si les villes brûlent, ce n'est pas très grave non plus. Les riches les habitent et je ne saurais les plaindre. Mais les villages, les hameaux, combien flambent dans un été? Il rit sans bruit. On a des biens, on ne sait pas s'en servir. D'après toi et moi, il ressort que ce n'est pas pour lui ni pour la terre que l'homme travaille. Il travaille pour l'eau et pour le feu. Et tu en ris? Et pourquoi pas? On n'éteint pas un incendie avec des larmes, et les larmes ne grossissent pas une crue. Avec plus de curiosité que de colère, je lui demande. « Veux-tu m'expliquer pourquoi tu révèles au patron ce que je pense ?» Il me reprend sur un ton bienveillant. « Mais pour qu'il sache tes pensées, malheureux, il faut qu'il les connaisse. Qui serait capable de t'instruire sinon lui ? Ce n'est pas la méchanceté qui me pousse, c'est ton intérêt, bien entendu. Tu n'es pas une bête, mais le diable se démène dans ta caboche. Si tu voles, je ne dirai rien. » Si tu vas chez les filles, je me tairai, et aussi si tu bois. Mais tes idées insolentes, je les rapporterai toujours au patron, sois-en sûr. Je ne te confierai plus rien. Il se tut et enleva le goudron qu'il avait sur le poignet. Puis, en me regardant d'un air affectueux, il reprit. Non, mon petit, tu me parleras encore. Avec qui parlerais-tu si ce n'est avec moi? Avec personne. Toutes sortes de pensées s'amassaient dans mon esprit en nuages épais. L'existence me pesait, douloureuse. Mais comment vivre autrement? Où aller? Je n'avais personne à qui je pusse parler, sauf Ossip. Malgré tout, je continuais à converser avec lui. Il écoutait mes bavardages fiévreux avec un intérêt visible. Il me questionnait, pour mieux être renseigné, et il répliquait paisiblement. Je te le conseille en toute sincérité. Va-t'en au couvent. Reste-y jusqu'à ta majorité. Tu feras de beaux sermons aux pèlerins. Ton cœur inquiet s'apaisera et tu deviendras riche. Je te le conseille sincèrement. Tu ne vaux rien du tout pour les affaires de ce monde. Je le vois bien. »
Je n'avais nulle envie d'aller au couvent. Mais je sentais que je m'étais égarée et que je tournais dans le cercle magique de l'incompréhensible. J'étais au désespoir. Pour moi, la vie ressemblait à une forêt d'automne. La saison des champignons était passée. Je ne savais que faire dans la forêt où je n'avais rien de nouveau à découvrir. Je ne buvais pas d'alcool, je ne courais pas les filles. Ces deux moyens d'enivrer l'âme étaient remplacés pour moi par les livres. Et plus je lisais, et plus il me devenait pénible de mener une existence inutile et vide, comme celle de la plupart des gens. Je venais d'avoir 15 ans et demi, mais parfois je me sentais homme mûr. Au moral, je m'étais gonflé et alourdi sous l'influence de tout ce que j'avais vu ou lu et de toutes mes réflexions. En regardant en moi, je trouvais le réceptacle de mes impressions pareil à un sombre réduit où sont entassées en désordre toutes sortes de choses. Je n'avais ni la force ni la science nécessaire pour m'y reconnaître. Et malgré leur abondance, mes bagages n'étaient pas bien assis. Ils vacillaient et me faisaient chanceler, comme l'eau ébranle un bassin posé de travers sur une table. J'avais une antipathie dédaigneuse pour les malheurs, les maladies, les lamentations. Quand je voyais des choses cruelles, du sang, des rixes, et même quand j'entendais des outrages, des injures, j'en éprouvais un dégoût organique qui se transformait très vite en une sorte de rage froide, et je me battais moi-même comme un fauve. Après quoi, j'en étais malade de honte. Parfois, j'avais un désir si fou de tuer le persécuteur. Je me jetais si aveuglément dans la mêlée que maintenant encore, quand je pense à ces accès de désespoir causés par l'impuissance, j'en éprouve de la stupeur et de l'angoisse. En moi, il y avait deux êtres. L'un, connaissant trop l'infamie et la fange, en était devenu un peu craintif. Écrasé par ce qu'il savait de la cruauté quotidienne, il prenait envers la vie et les gens une attitude de méfiance, de suspicion, mêlé à une pitié inefficace pour les autres et pour soi-même. Cet être-là rêvait d'une existence paisible et solitaire, avec des livres et sans compagnie humaine. Il rêvait d'un monastère, d'une guérite de garde-voix, d'une hutte forestière, de la Perse, d'un poste de gardien aux barrières de la ville. Il rêvait de s'écarter de la foule, de s'éloigner du monde. L'autre, baptisé du Saint-Esprit des livres honnêtes et profonds, constatait la force victorieuse de la cruauté quotidienne, sentait avec quelle facilité elle pouvait lui arracher la tête, lui broyer le cœur avec ses armes fangeuses, et il se défendait, les dents serrées, les poings fermés, prêt à toutes les querelles et à toutes les luttes. Celui-ci aimait et souffrait, et, comme il convenait aux vaillants héros des romans français, il sortait l'épée du fourreau au troisième signal et se mettait en position. J'avais à cette époque un ennemi acharné, le portier d'une des maisons publiques établies dans la rue, Pokrovska. J'avais fait sa connaissance un matin en allant à la foire. Devant le portail de sa maison, il descendait d'un fiacre une fille ivre morte. Il l'avait saisie par les pieds et la traînait sans ménagement. Les jupes de la fille s'étaient retroussées, ses bas tombaient en tire-bouchons, et l'homme lui crachait sur le corps avec des rires et des exclamations. Aveuglé, fripé, la bouche ouverte, les bras mous et comme déboîtés, la femme glissait du véhicule par soubresauts. Son dos, sa nuque et son visage bleui se heurtaient au siège de la voiture, puis au marchepied. Enfin, elle tomba sur la chaussée en se frappant la tête sur une pierre. Le cocher, fouettant son cheval,
s'en alla, et le portier s'attela au pied de la femme. Marchant à reculons, il se mit à la traîner sur le trottoir comme une morte. Affolé de colère, je courus, et par bonheur, je jetai à terre où je laissai tomber un niveau d'eau, ce qui nous sauva, le portier et moi, d'un gros désagrément. Tombant sur lui en plein élan, je le renversai, je bondis sur le perron et tirai désespérément le bouton de la sonnette. Je ne sais quels gens hirsutes apparurent. Je ne parvins pas à leur expliquer ce qui s'était passé. Je ramassai mon instrument et je m'en allai. Au carrefour, le cocher me rejoignit. Me regardant du haut de son siège, il me dit avec approbation « Tu l'as bien descendu !» Je lui demandai, non sans indignation, pourquoi il n'était pas intervenu en voyant la brutalité de ce portier. Dédaigneux et paisible, il me répondit « Je m'en fiche. Des messieurs m'ont payé quand ils l'ont mise dans ma voiture. Qu'est-ce que ça me fait, qu'on se batte ou non ?»
Et si on l'avait tué?
C'était possible. Des créatures comme ça, on peut les tuer vite. Depuis ce jour, je voyais le portier presque quotidiennement. Je suivais mon chemin, et il balayait le trottoir, ou restait assis sur le perron, comme s'il me guettait. J'approchais, il se levait, retroussait ses manches, et me prévenait de ses intentions. Je vais tout de suite te mettre en pièces. Il avait dépassé la quarantaine. Petit, les jambes torses, le ventre proéminent comme celui d'une femme enceinte, il me regardait d'un air rayonnant, et j'étais à la fois étonnée et terrifiée de voir que ses yeux étaient pleins de bonté et de gaieté. Il ne savait pas se battre. En outre, ses bras étaient moins longs que les miens. Après deux ou trois prises, il lâchait, s'appuyait du dos à la grille, et disait avec surprise « Eh bien, attends, crapaud !» Rassasié de ses combats, je lui dis une fois « Écoute, imbécile, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. »« Et pourquoi résistes-tu » demanda-t-il d'un ton gros de reproche. Je lui demandai à mon tour pourquoi il avait ainsi maltraité la fille.
« Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu en as pitié ?»«
Oui, bien sûr !» Il se tut un instant, essuya ses lèvres et reprit. « Et les chats, tu en as pitié aussi ?»«
Certainement, des chats aussi. »
Alors il me dit « Tu es un imbécile et une fripouille. Attends un peu, je te le montrerai bien. » Je ne pouvais éviter cette rue. C'était le chemin le plus court. Mais je me levai de meilleure heure pour ne pas rencontrer cet homme. Néanmoins, je le revis quelques jours plus tard. Assis sur le perron, il caressait un chat cendré couché sur ses genoux. Lorsque je fus à trois pas de lui, il se leva brusquement, prit le chat par les pattes et le frappa de toute sa force sur la borne. Du sang aspergea mes vêtements. Ensuite, le portier lança la bête morte à mes pieds. Et, se réfugiant sous le guichet de la porte cochère, il me dit « Hein ?» Je me précipitai sur lui. Comme deux chiens, nous roulâmes dans la cour. Après le combat, je m'assis sur les herbes du carrefour. Dans un indicible désespoir, je me mordais les lèvres pour ne pas hurler. Quand j'évoque cet épisode, je frémis de dégoût et je me demande comment je ne suis pas devenu fou et n'ai tué personne. Pourquoi raconter ces abominations? Mais pour que vous les connaissiez. Vous aimez les scènes de terreur, bien imaginées, bien dépeintes. Les horreurs de fantaisie vous secouent agréablement. Mais moi, je sais des choses vraies qui sont réellement terribles. Je connais les horreurs de tous les jours. Et j'ai l'indéniable droit de vous faire frissonner en vous les racontant. Si toutefois vous vous rappelez encore comment vous vivez et de quoi vous vivez. Nous vivons tous d'une vie malpropre et infâme. Voilà la vérité. J'aime beaucoup les êtres humains, et je voudrais ne chagriner personne. Mais on ne peut dissimuler les affreuses réalités sous les mots bariolés et menteurs. Ah, la vie, la vie.
Elle dissout tout ce qu'il y a de bon et d'humain dans nos cœurs et dans nos cerveaux.
Chapitre 33. Ce qui m'affolait, surtout, c'était la manière dont on traitait les femmes. Bourrée de romans, je considérais la femme comme ce qu'il y a de mieux et de plus important dans la vie. Mon opinion était confirmée par grand-mère, par ses histoires sur la Sainte Vierge et la bienheureuse Vassilissa, par la malheureuse blanchisseuse Natalia, par ses centaines, ses milliers de regards, de sourires dont j'avais vu les femmes, ces mères de la vie, parer l'existence si pauvre de joie, si indigente d'amour. La gloire de la femme était chantée délicieusement dans les livres de Tourguenieff ou de Heine. Tout ce que je savais de beau sur la féminité, j'en ornais l'inoubliable image de la reine Margot. En revenant le soir de la foire, je m'arrêtai sur la colline, sous les murs du Kremlin. Je regardais le soleil se coucher au-delà de la Volga, les rivières de feu coulaient dans le ciel, et le fleuve terrestre, si aimé, devenir pourpre et bleu. Parfois, il me semblait que la terre entière n'était qu'une immense barque de prisonniers, qu'un invisible remorqueur entraînait avec lenteur vers des rivages inconnus. Plus souvent encore, je pensais à l'immensité du monde, aux pays étrangers où l'on ne vivait pas comme ici. Dans les compositions des écrivains étrangers, la vie était plus propre, plus aimable, moins laborieuse que celle qui bouillonnait, monotone et stérile, autour de moi. Mes inquiétudes en étaient calmées, et je rêvais obstinément à la possibilité d'une existence différente. Il me semblait toujours que j'allais rencontrer un homme simple et initié qui saurait me conduire à la voie large et nette. Un soir, comme j'étais assis sur un banc sous le rempart du Kremlin, mon oncle Jacob se trouva soudain à côté de moi. Je ne l'avais pas vu venir, et je ne le reconnus pas d'abord. Depuis plusieurs années, nous vivions dans la même ville, et cependant nos rencontres étaient rares, accidentelles et brèves. « Ah, ce que tu as poussé !» dit-il avec un sourire en me frappant sur l'épaule. Et nous nous mîmes à bavarder. Par les propos de grand-mère, je savais que l'oncle Jacob avait gaspillé tout son argent en bonbons. Il obtint une place de second surveillant à la maison d'arrêt où l'on hospitalisait momentanément les condamnés en route pour la Sibérie. Mais ses fonctions prirent fin brusquement. Le surveillant en chef étant tombé malade, l'oncle Jacob organisa chez lui de joyeux festins pour les prisonniers. La chose s'ébruita, mon oncle fut renvoyé et traduit en justice pour avoir laissé ses ouailles se promener en ville pendant la nuit. Aucun des prisonniers ne s'était enfui, mais l'un d'eux fut saisi au moment même où il étranglait un diacre. L'enquête dura longtemps. Heureusement, l'affaire ne passa pas devant le tribunal. Prisonnier et geôlier surent tirer le bon oncle de sa fâcheuse situation. Maintenant, il vivait sans travailler, aux dépens de son fils qui était chantre dans le chœur de l'église Rukavinskov, célèbre à cette époque. Il parlait de son fils d'une manière bizarre. « Il est devenu grave et important. Il est soliste. Si je ne lui prépare pas son samovar à temps ou ne lui brosse pas assez vite ses habits, il se fâche. C'est un gaillard ponctuel et d'une propreté. » L'oncle avait beaucoup vieilli. Il était tout crasseux et bien affaibli. Ses jolies boucles s'étaient clairsemées et les oreilles se décollaient. Autour des yeux et sur la peau bleuâtre de ses joues rasées apparaissait un réseau serré de petites veines rouges. Il parlait d'un ton plaisant, mais l'élocution était un peu gênée, quoique ses dents fussent intactes. J'étais enchantée de cette occasion de causer avec un homme qui savait vivre gaiement, qui avait beaucoup vu et qui, par conséquent, devait connaître bien des choses. Je me rappelais nettement ses chansons alertes et amusantes, et je me remémorais ce que grand-père disait de lui. « Par ses chants,
c'est le roi David, mais par ses œuvres, c'est le maudit Absalom. Sur le boulevard, devant nous, passait un public bien habillé, dames élégantes, fonctionnaires, officiers. Mon oncle portait un pardessus d'automne tout râpé, une casquette chiffonnée, des souliers rougeâtres, et il se pelotonnait sur lui-même, visiblement honteux de son costume. Nous nous dirigeâmes vers un cabaret du ravin Potchinski, où nous nous plaçâmes près d'une fenêtre qui ouvrait sur le marché. Vous rappelez-vous, comme vous nous chantiez, un pauvre diable suspend ses chaussettes pour les sécher, un autre pauvre diable les lui a volées. En prononçant les mots de la chanson, je sentis tout à coup, et pour la première fois, son sens ironique, et il me sembla que mon oncle, si gai, était en réalité méchant et perspicace. Mais il me dit d'un ton rêveur, en se versant de l'eau-de-vie, « Oui, j'ai vécu, je me suis débattu, et sans grand effet. Cette chanson n'est pas de moi, mais d'un maître du séminaire. Comment donc s'appelait-il ? Il est mort, j'ai oublié son nom. Nous étions grands amis. Il n'était pas marié, il buvait. Un jour d'ivresse, le grand froid l'a tué. Que de gens meurent de trop boire. Je ne puis compter tous ceux que j'ai connus. Toi, as-tu ce défaut ? Ne te presse pas, attends encore. Vois-tu souvent le grand-père ? Il n'est pas drôle, ce vieux-là. On dirait qu'il perd la tête. » Sous l'influence de l'alcool, il s'animait et se redressait. Il rajeunissait et parlait avec aplomb. Je le questionnais au sujet de son histoire avec les prisonniers. « Ah, tu sais l'affaire !» Il baissa la voix et reprit après avoir jeté un regard circulaire. « Eh bien, ces prisonniers, je ne suis pas leur juge. C'étaient des gens comme les autres. Je leur ai dit « Frères, vivons en amis, dans la gaieté !» Et je leur chantais cette chanson. « La destinée n'est pas une entrave à la joie. Qu'importe qu'elle nous mette sous le joug. Nous vivrons uniquement pour le rire. Imbécile qui vit autrement. » Il se mit à rire, jeta un coup d'œil sur le ravin qui s'assombrissait et dont le fond était occupé par les petites boutiques des marchands en plein vent. Et il continua en effilant ses moustaches. « Bien sûr, ils ont été contents. On s'ennuie tant en prison. Dès que l'appel était fait, ils venaient chez moi. On avait des provisions, de l'eau de vie. C'était tantôt moi, tantôt eux qui payaient. Ah, la douce existence! J'aime les chants et la danse, et il y avait parmi eux des chanteurs et des danseurs extraordinaires. Quelques-uns d'entre eux étaient à la chaîne. Pouvaient-ils danser? Non. Alors, je permettais qu'on les leur enlevât. D'ailleurs, habiles comme ils sont, ils savent bien les enlever eux-mêmes et s'en forgeront. Quant à prétendre que je leur permettais d'aller en ville pour voler et piller, c'est une sottise. » Il se tut, regardant les fripiers qui fermaient leurs boutiques dans le fond du ravin. Les verrous de bronze claquaient, les serrures rouillées grinçaient, des planches tombaient avec un bruit sourd. Son inspection terminée, il continua à mi-voix. « S'il faut dire toute la vérité, il y en a bien un qui sortait la nuit. Ce n'était pas un forçat, mais un voleur d'ici, de Nijni Novgorod. Il avait une amie tout près de la prison, à la Péchorka. L'attaque du diacre fut le résultat d'une erreur. Le pauvre homme avait été pris pour un marchand. C'était en hiver, la nuit. La neige tombait en tourbillon. Tout le monde court en pelisse. Va donc distinguer, quand tu es pressé, entre un diacre et un marchand. » La chose me parut divertissante. L'oncle Jacob se mit à rire aussi et répéta « Le diable lui-même s'y serait trompé. » Soudain, la colère le prit. Il repoussa l'assiette posée devant lui et grimaça avec dédain. Allumant une cigarette, il marmotta d'une voix sourde « Dans la société, les gens se volent les uns les autres. Ensuite, ils s'empoignent, ils s'envoient en prison, en Sibérie, au bagne. Mais moi, je n'y suis pour rien. Je me fiche de tous. J'ai mon âme à moi. »
Je revoyais le chauffeur hirsute. Lui aussi, il disait souvent « Je m'en fiche !» Et il portait le même nom, Jacob.
« À quoi penses-tu ? »
me demanda doucement mon oncle.
« Vous aviez pitié des prisonniers ?»«
On peut les plaindre. Il y a dans le nombre des gaillards étonnants. Parfois, je me disais en les regardant, « Je ne suis rien en comparaison de tel ou tel, et pourtant je suis son supérieur. Quels diables intelligents et habiles !»
L'eau-de-vie et les souvenirs l'avaient remis de bonne humeur. Accoudé sur l'appui de la fenêtre, agitant un bout de cigarette qu'il tenait entre ses doigts jaunes, il se mit à rappeler ses souvenirs avec animation.
« Je citerai un horloger graveur, un bossu, qui avait été condamné comme faux-monnayeur et qui a pu prendre la fuite. Si tu l'avais entendu parler, c'était du feu, un soliste qui chanterait. « Explique-moi, disait-il, pourquoi le trésor peut imprimer des billets et moi non ? Explique-moi cela !» Nous ne pouvions lui répondre, et j'étais son geôlier. Un autre, un célèbre voleur de Moscou, un petit jeune homme propre et coquet, bien paisible, nous disait poliment « Je n'accepte pas que des gens travaillent jusqu'à en être abrutis. J'ai passé par là. J'ai travaillé, travaillé. La fatigue me rendait stupide. Je m'enivrais pour 2 copecks. Je perdais 5 sous aux cartes. Je donnais 10 copecks à une femme pour une caresse. Ensuite, j'avais de nouveau le ventre creux et ma bourse était vide. Non, je ne joue plus à ce jeu-là. »
L'oncle Jacob se pencha sur la table et continua en rougissant, si excité que ses petites oreilles en tremblaient.
« Ce ne sont pas des imbéciles, mon ami. Ils raisonnent. Bah, quelle aille au diable, toute cette comédie. Comment ai-je vécu ? J'ai honte quand j'y pense. J'ai vécu par bribes et par morceaux, en cachette. Mon chagrin était à moi, et ma gaieté, je la dérobais à autrui. Tantôt c'était le père qui me criait « Je te défends !» Tantôt c'était la femme qui piaillait « Je t'interdis !» D'autres fois, j'avais peur de moi-même. Ainsi, j'ai laissé passer la vie, et maintenant je sers de domestique à mon fils. À quoi bon le cacher ? Je suis pourtant obéissant, et lui, il crie comme un grand seigneur. Il dit « Père !» Et moi je traduis « Laquais !» Et quoi ? Ne suis-je donc né ? Ne me suis-je tant débattu que pour servir de valet de chambre à mon fils ? Et même sans cela, pourquoi ai-je vécu ? Ai-je eu beaucoup de joie dans mon existence ?
J'écoutais distraitement. À contre-cœur, sans attendre de réponse, je dis « Moi non plus, je ne sais comment je vis. » Il eut un petit rire.
« Ah ! Qui est-ce qu'il sait ? Je n'ai vu personne qu'il sache. » Chacun se laisse aller au fil de ses habitudes. »
Irrité et mortifié de nouveau, il continua. « J'avais dans la prison un homme qui venait d'Orel, un condamné pour viol, un danseur extraordinaire. Parfois, il amusait tout le monde en chantant la complainte de Vanka. Vanka marche dans son linceul. C'est bien simple, cela. Ah, Vanka, sors donc ton nez hors de ton suaire. » Et je pensais que la chanson n'était pas amusante, mais qu'elle disait la vérité. On a beau se démener, on ne voit pas plus loin que le linceul. Et alors, tout est indifférent. Peu importe qu'on ait été le prisonnier ou le geôlier du prisonnier.
Las de parler, il acheva son eau-de-vie et regarda le flacon vide, à la manière d'un oiseau, en clignant d'un œil. Puis il alluma, sans mot dire, une autre cigarette, dont il envoya la fumée dans ses moustaches.
« Quoi qu'on fasse, quoi qu'on espère, personne ne peut échapper à la tombe ni au suaire. »
disait souvent Piotr le maçon, qui ne ressemblait pas du tout à mon oncle. Que d'expressions de ce genre je connaissais déjà. Je n'avais plus envie de questionner mon oncle sur quoi que ce fût. Sa compagnie me rendait triste et il me faisait pitié. Je me remémorais les mélodies entraînantes et le son de la guitare filtrant de la joie à travers la douce mélancolie. Je n'avais pas non plus oublié le joyeux Tzigane, et tout en regardant la silhouette cassée de l'oncle Jacob, je me demandais involontairement « Se rappelle-t-il comment le Tzigane a été écrasé sous une croix ?» Mais je n'avais nulle envie de le questionner à ce sujet. Je regardais dans le ravin, rempli jusqu'au haut d'une humide pénombre estivale. Une odeur de pommes et de melons en montait. Sur l'étroite route menant à la ville, des réverbères s'allumaient. Tout m'était familier. La sirène du bateau de Rybinsk allait siffler, puis celle du bateau de Perm. « Tout de même, c'est le moment de partir, » dit mon oncle. À la porte du cabaret, en me secouant la main, il me conseilla sur un ton de plaisanterie « Ne broie pas de noir, on dirait que tu en broies. Laisse ça, tu es encore bien jeune. Rappelle-toi une chose, la destinée n'est pas une entrave à la gaieté. Eh bien, adieu, il faut que j'aille à Ouspenia. » Mon joyeux oncle s'en alla, me laissant plus perplexe encore que je ne l'étais avant sa rencontre. Je montai vers la ville, puis je me dirigeai vers les champs. C'était la pleine lune. Au ciel flottaient de gros nuages dont les ombres noires effaçaient la mienne sur le sol. Contournant la cité, j'arrivai à Lotkos, au bord de la Volga. Je m'y allongeai sur l'herbe poussiéreuse, et longtemps je regardais, au-delà du fleuve, les prés et la terre immobiles. Les ombres des nuages se traînaient lentement au-dessus de l'eau. Elles devenaient plus claires sur les forêts et les champs, comme si elles se fussent lavées dans les vagues. Aux alentours, tout était à moitié endormi. Tout semblait ne remuer que par une pénible nécessité, à contre-cœur, et non dans un amour ardent du mouvement et de la vie. Ah, comme je serais charmée de pouvoir frapper cette terre d'un pied léger et donner le signal d'une farandole joyeuse où tous les danseurs épris de la vie, s'aimant les uns les autres, goûteraient le bonheur. Je me disais, il faut tenter quelque chose, sinon je périrai. Aux maussades journées d'automne, quand on ne voit pas le soleil, quand on ne le devine même pas derrière les nuées et qu'on l'oublie, par ces mauvaises journées, il m'était arrivé bien souvent de m'enfoncer dans la forêt. Je m'égarais. Alors je cherchais un sentier. Là, de ma recherche vaine, je serrais les dents et je marchais au hasard, tout droit devant moi, à travers fourrés et taillis, ou sur les mottes chancelantes des marais, et je finissais toujours par retrouver mon chemin. C'est ce que je résolus de faire. À l'automne de cette même année, je partis pour Kazan, avec le secret espoir d'y trouver peut-être l'occasion de m'instruire.